êtes bienvenus à tous pour ce premier séminaire du GERI pour l'année 2016. Tout d'abord, merci à tous d'être présents aussi nombreux. Merci aussi à nos deux orateurs qui je suis sûre, sauront être passionnants sur la question de l'innovation. Et je vais laisser tout de suite la parole à Patrice Flichy, que je laisse te présenter.
Merci Sonia de m'avoir invité ici. Effectivement, je suis dans un laboratoire qui a quelques liens avec l'ISTAR, le MAS, mais je crois, en plus les gens de l'ISTAR à la cantine, dans ces bâtiments, que vraiment ce n'est des collaborations intellectuelles avec eux. Donc je crois qu'on va avoir une matinée avec deux intervenants, un Laralé et moi-même. Je dirais donc vous aurez un peu deux approches d'abord de deux sciences sociales différentes. Alain est économiste et je suis sociologue. Et puis on va démarrer classiquement dans un séminaire partant du général au particulier. Donc je vais faire un exposé un peu général sur la question de l'innovation et le rapport innovation usagée. Et puis Alain, je crois, rentrera ensuite plus dans ce qui l'intéresse plus particulièrement, qui est la question des transports. Et puis si j'ai bien compris, cet après-midi on va pouvoir faire une sorte d'étude de cas, donc avancer dans une réflexion plus précise sur des innovations de transport. J'ai quelques problèmes de transparence, donc j'ai deux slides, donc j'ai juste un PowerPoint qui est donc en fait le plan de mon intervention. Donc je vais vous présenter différentes approches de la question des rapports entre usagers et concepteurs. D'abord, je vous présenterai l'approche la plus classique, qui est l'idée d'une domination de la technique. Ensuite, nous essaierons de voir comment les usagers interviennent dans cette affaire. D'abord, en développant les thèses sur l'innovation ascendante, donc ce nouveau pouvoir que les usagers prennent dans le développement des innovations, notamment dans le domaine du numérique. Ensuite, je vous parlerai d'un autre type d'usagers qui, eux, ont bien du mal à prendre le pouvoir, qui sont les usagers ordinaires. Je vous présenterai ensuite une approche qui s'est pas mal développée dans le domaine de la sociologie de l'innovation, qui est l'approche interactionniste, qui est la mienne. Et puis, je terminerai par une réflexion sur la mise en réseau, un des différents acteurs de l'innovation. Je crois qu'il est prévu qu'on ait un temps de questions. Je crois qu'il faut qu'il soit le plus long possible, puisque j'ignore un petit peu qui est autour de la table, donc il y a toujours un risque que mon discours ne soit pas complètement adapté à vos attentes.
S'il y a des questions de compréhension, n'hésitez pas peut-être à interrompre en cours de route. Et les questions plus de fond, je vais laisser à la fin. Il y a eu un temps d'une demi-heure de discussion pour chaque profession.
Alors, je démarrerai en citant ce mot d'ordre qui était celui de l'exposition universelle de Chicago en 1933. À l'entrée de cette exposition, il y avait cette phrase « La science découvre, l'industrie applique, l'homme suit ». Voilà un monde de l'innovation extrêmement simple. Finalement, on a de brillants scientifiques qui inventent de nouvelles théories scientifiques, des grands laboratoires industriels. Les années 30, c'est en même temps l'année où, l'époque, des grandes sociétés comme AT&T, comme General Electric, ont des très très grands laboratoires. Ils sortent de nouveaux produits. Et le consommateur n'a plus qu'à les acheter. Vous connaissez tous la fameuse phrase de Ford à propos de la Ford T. Le consommateur a le choix de la couleur à condition qu'elle soit noire. Donc on était dans ce modèle, finalement assez simple, qui était aussi le début d'une industrie de masse. C'était ce tournant qui s'est fait dans les années 1910-1920 aux États-Unis. Alors, ce type de théorie fait un peu sourire aujourd'hui. Néanmoins, je crois qu'on a tendance souvent à oublier qu'il y a un certain nombre de mutations de base dans le domaine technologique qui constituent malgré tout des conditions nécessaires, pourrait-on dire, à l'innovation. Si on prend le domaine du numérique, la fameuse loi de Moore, hein, vous savez, cette loi qui dit que finalement la puissance des composants multipliée par 2 tous les 18 mois est incontestablement à la base du développement du numérique et de la micro-informatique. Également, je crois qu'on ne dit pas assez à propos d'Internet que sans le développement de la fibre optique, le développement extraordinaire de la fibre optique, hein, le réseau Internet ne fonctionnerait pas. On ne pourrait pas accéder à des bases de données qui sont à l'autre bout de la planète. Le cloud aurait bien du mal à fonctionner. Alors, je crois qu'il est nécessaire de rappeler ces éléments. Mais évidemment, il ne suffit pas d'avoir inventé le microprocesseur pour inventer le micro-ordinateur. Et l'invention du micro-ordinateur est effectivement un bon exemple de cela. Le microprocesseur était disponible, notamment chez HP. Personne chez HP, hein, personne chez les fabricants de composants n'envisager qu'on puisse utiliser ce dispositif pour créer un ordinateur personnel. Donc, c'est d'autres innovateurs hein, qui vont jouer cette carte, qui vont proposer ce nouveau produit. Bon, on connaît la saga des Steve Jobs, des Wozniak, etc. Cette approche aussi qui paraît un peu abrupte, on la retrouve malgré tout chez certains sociologues qui comparent la technique à un texte. Hein. L'un d'entre eux dit que finalement la technique configure l'usager. Hein. De même que le texte s'impose au lecteur, eh bien la technique configure l'usager. Une autre sociologue parle du script d'un film, dit que la technique c'est comme le script d'un film. Les objets techniques définissent une sorte de cadre dans lequel les acteurs sont supposés agir. Donc voilà cette première théorie sur laquelle je vais passer. Et pour vous présenter une approche qui est beaucoup plus courante aujourd'hui, qui est celle du rôle des usagers dans l'innovation. Un des théoriciens américains de ce type d'approche, Eric Von Ripple, qui est professeur à MIT, à la fin des années 60, a écrit un livre tout à fait intéressant qui s'appelle Sources of Innovation, dans lequel il s'est intéressé aux instruments scientifiques. Il a regardé quelle était l'origine de l'innovation dans les instruments scientifiques. Il montre que pour l'essentiel, les instruments scientifiques sont conçus par les scientifiques eux-mêmes. Car les scientifiques qui sont les utilisateurs de ces outils savent très très précisément ce dont ils ont besoin. Et donc, ils font un prototype, ils bricolent quelque chose, mais en tout cas, très largement, ils sont à l'origine de cette innovation qui ensuite sera, selon un schéma assez classique, industrialisée hein, par des entreprises. Donc cette idée que l'utilisateur peut être à l'origine de l'innovation, Von Ripple, dans ses travaux suivants, va très largement le développer. En développant l'idée du lead user, hein, de ces usagers innovants qui sont en quelque sorte à la pointe de l'innovation, qui sentent avant les autres où ils la demandent, parce que c'est leur propre demande qu'ils peuvent exprimer. C'est ce que Van Rippel va appeler l'innovation ascendante, ou dans le titre d'un de ses livres, la démocratisation de l'innovation. Alors, il y a deux exemples clés que cite constamment Van Rippel. Le premier, c'est le cas du surf, où les surfeurs ont transformé la planche de surf, d'abord en modifiant les cale-pieds, et puis ensuite en inventant un nouveau sport qui est le kitesurf, donc en rajoutant à la planche une voile. Là, on a affaire à des usagers en quelque sorte professionnels de surf, qui ont des compétences, en tout cas en ce qui concerne l'usage des planches, qui ont des compétences en ce qui concerne les vagues, les courants, les vents, pardon, qui font qu'ils sont bien outillés pour transformer la planche, d'autant plus qu'il s'agit à l'origine d'un bricolage assez simple, parce qu'il suffit d'avoir une colle forte pour modifier les cale-pieds. Le deuxième exemple plus important mobilisé par Van Rippel est l'exemple des logiciels libres, et plus particulièrement du logiciel Apache, qui a été, qui est encore d'ailleurs, le logiciel le plus utilisé sur les serveurs web. On a un logiciel qui a été conçu par la communauté des informaticiens qui gère les serveurs. Donc, à partir de ces quelques exemples, Van Rippel construit une théorie sur l'innovation ascendante qui montre que on a le schéma exactement inverse de celui du moteur de l'exposition de Chicago, l'innovation par des usagers. Car finalement, qui mieux que les usagers connaît l'allemand ? Et il y a dans le schéma de Van Rippel, c'est cette idée que ces usagers qui saisissent une demande, les plus motivés d'entre eux, eh bien, vont essayer de trouver une solution un peu bricolée pour répondre à cette demande. C'est le cas du surf. Ou au contraire, vont même pouvoir développer de façon coopérative, c'est le cas des logiciels libres, des outils qui sont en plus, alors le cas des logiciels libres, évidemment tout à fait passionnant, parce qu'ils sont parmi les logiciels les plus performants, parce que finalement l'ensemble du travail coopératif permet de corriger les logiciels, notamment de les débugger, hein, ce qui est le grand problème de la production des logiciels, pour arriver à un logiciel optimum. Et cette théorie, je dirais, si on se rapproche un petit peu de nos sujets d'aujourd'hui, on en a une bonne illustration dans la communauté des développeurs Android, Android, comme vous savez, est un logiciel ouvert, et finalement, cette communauté produit toute une série d'applications qui vont être ensuite proposées sur Google Play. Alors, cette théorie est séduisante. Elle a, à mon sens, une limite importante, c'est sa conception de l'usager. C'est-à-dire qu'un peu, les usagers que étudie Van Rippel sont des usagers technophiles, des usagers qui ont une compétence technologique forte. En tout cas, bon, pour les surfeurs, je ne sais pas trop, mais pour les développeurs informatiques, de façon évidente. Donc, effectivement, il existe aux frontières de l'entreprise des usagers de ce type. Je dis bien aux frontières de l'entreprise parce que ces développeurs du libre ont la plupart du temps un métier d'informaticien et sur leur temps libre, hein, alors un temps libre qui peut être complètement aménagé dans l'entreprise ou qui peut être extérieur à l'entreprise, une sorte d'activité bénévole, on va dire. Hein, si on prend la distinction entre travail professionnel et travail bénévole, une activité informatique. Mais quid des autres usagers? Quid de l'usager ordinaire? Ce qui m'amène au troisième point de mon intervention, je dirais les réflexions sur l'usager ordinaire viennent un peu de deux secteurs de la sociologie. D'une part, ce qu'on appelle la théorie de la réception, hein, qui est une réflexion qui vient de la sociologie des médias, et d'autre part, une sociologie des usages qui s'est intéressée aux usagers ordinaires. Je dirais que ces théories partent du constat que, d'abord, les nouvelles technologies n'induisent pas les usages, mais s'inscrivent dans des pratiques antérieures qui perdurent. Je dirais qu'il y a toujours une des difficultés chez les gens qui préparent l'innovation, c'est de penser qu'ils arrivent dans un champ vierge, hein, que finalement ils nous proposent un nouveau produit, hein, qu'on utiliserait comme ça, de façon complètement nouvelle, alors que évidemment, ce nouveau produit, cette nouvelle application s'intègre à nos pratiques antérieures. Et donc la façon dont ça s'articule avec nos pratiques antérieures est quelque chose que les gens qui développent l'innovation ont souvent du mal à intégrer. Alors faisons un petit détour par cette sociologie de la réception. Je dirais, son premier constat, c'est que contrairement à tout un courant qui vient notamment de la sémiologie, le récepteur ne donne pas forcément le sens au texte que l'auteur a voulu lui donner. Le texte ne s'impose pas au récepteur. Les médias n'influencent pas, n'ont pas un effet direct sur leurs auditeurs. Ces thèses qui ont été notamment développées par le philosophe et sociologue Michel de Certeau, qui s'est intéressé beaucoup au lecteur et qui estime que le lecteur, mais ces théories ensuite ont été élargies à l'usager, le lecteur finalement braconne dedans le texte. Le consommateur ruse, bricole, transforme. Il y a une sorte de liberté créatrice du consommateur, du lecteur, par rapport à l'imposition qu'on veut lui faire du texte ou de l'objet technique. Michel de Certeau faisait une distinction, une autre distinction un peu voisine. Il distinguait la stratégie et la tactique, en disant l'auteur du texte, mais on peut dire la même chose de l'ingénieur, finalement c'est un stratège. Il positionne des choses et l'usager, il positionne des choses, il positionne un cadre, et l'usager, eh bien lui, c'est un tacticien. Il ruse finalement avec ce que le concepteur, l'auteur, essaye de lui imposer. De ces théories, et ces théories ont été assez largement reprises par la sociologie des usages, qui est un courant des travaux sociologiques, qui s'est d'abord intéressé à la question du détournement par l'usager des usages. Alors il y a un exemple canonique, qui est l'exemple du SMS. Quand la norme GSM a été élaborée, on craignait que on ait du mal à écouler le trafic, des incidents multiples, et donc les auteurs de la norme GSM. Sont dit qu'il faudrait qu'on ait la possibilité d'envoyer des messages d'alerte, hein, en disant, ben voilà, le réseau est bloqué. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du vieux réseau téléphonique, autrefois, on avait de temps en temps des messages téléphoniques, des messages oraux, qui nous disaient, le réseau est saturé, revenez plus tard. Hein. Eh bien, c'était un petit peu la même idée, hein, et mais de dire, finalement, il vaudrait mieux faire ça par écrit, parce que ça consomme, évidemment, beaucoup moins de bits que si on fait ça par oral. Donc, dans la définition de la norme GSM, on a prévu cette possibilité d'envoyer des messages de service, un petit peu comme la RATP aujourd'hui. Et puis, rapidement, des utilisateurs un peu inventifs se sont aperçus que finalement, on pouvait utiliser cette possibilité pour envoyer des messages. Et le SMS est devenu partie prenante, hein, de cet outil de communication. Ce qui est intéressant dans ce détournement, c'est qu'on s'aperçoit que l'usage d'une technologie, ça c'est aussi une des dimensions qu'il faut prendre en compte, n'est pas un usage individuel, mais collectif. Hein. Les pratiques petit à petit s'imposent au sein d'un groupe social, d'abord par imitation, hein, et puis on sent ensuite un ensemble de la société. Pour le SMS, ça a été d'abord les jeunes. Hein. Alors, ceux de ma génération qui sont autour de la table se souviennent peut-être de leurs enfants qui, effectivement, pouvaient mettre leur téléphone portable sous la table et envoyer à leurs copains ou leurs copines des messages pendant qu'ils participaient aux repas familiaux. Donc d'abord une pratique un peu de transgression chez les adolescents et qui petit à petit est devenue une pratique ordinaire. Je dirais ce que cette notion de transformation, d'abord de détournement, mais de réadaptation, des usages, c'est quelque chose qui est évidemment particulièrement important dans des technologies qui sont relativement ouvertes, hein, comme les technologies de communication. Je dirais la limite peut-être de cette approche de la sociologie des usages, c'est qu'elle se limite trop souvent à l'appropriation de la technologie par les usagers, et je crois qu'il est intéressant et nécessaire de s'intéresser à l'ensemble de la chaîne qui va du concepteur à l'usager et d'analyser chacune des médiations, hein, au cours de l'itinéraire que parcourt un objet technique. Et je vais juste prendre deux cas de ces médiations. Le rapport entre le concepteur et le designer. À l'évidence, le designer n'est pas simplement quelqu'un qui est là pour rajouter un look à un objet technologique. Il y a bien une co-construction de l'innovation entre le concepteur et le designer. Il y a déjà 15-20 ans, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été réalisés sur l'apparition de la Twingo, de ce nouveau monospace dans l'industrie automobile, montrant que ce n'était pas simplement une transformation du véhicule, et notamment de son moteur, mais que c'était aussi, je dirais, une nouvelle approche de l'automobile. Et la façon dont les designers ont conçu cette voiture, hein, était centrale. Hein, c'était l'idée de la voiture à vie, plus simplement, ou de la voiture féminine, hein, d'une voiture qui était, où on était bien, et pas une voiture où on cherchait à faire de la vitesse. Donc on voit bien que bon, c'est ce qui a été développé dans les sciences de gestion autour de l'idée de l'innovation concourante, c'est-à-dire que les différents acteurs de l'innovation, d'abord dans la chaîne technologique, mais aussi avec les designers, travaillent en parallèle et co-construisent un outil technologique. Je dirais, l'autre exemple sur lequel je ne m'étendrai pas, qui est aussi évident, c'est comment l'ergonomie Windows, hein, venant d'Apple, a complètement modifié, hein, le rapport au micro-ordinateur. Je dirais deuxième Kafka d'interface, et que nous connaissons tous bien, appartenant à des grandes organisations, c'est la négociation, la médiation qui s'organise entre ceux qui installent une technologie et ceux qui l'utilisent. Prenons l'exemple banal des services informatiques dans les grandes organisations. Hein, le service informatique d'abord choisit un matériel entre différentes offres, souvent en négociation avec la direction, qui fait intervenir évidemment un critère économique de coût, mais aussi qui a une vision sur les différents modes d'organisation du travail qui pourraient être apportés par la technologie. Et puis, eh bien, ces nouveaux logiciels, ces nouveaux micro-ordinateurs, ces nouveaux terminaux sont proposés aux utilisateurs qui, eux, ensuite, les transportent. Prenons deux exemples classiques. Hein. Dans de très nombreuses entreprises, on a essayé de proposer aux collaborateurs des applications collaboratives, hein, applications qui sont très, très cadrées, hein, où on dit effectivement qui peut collaborer avec qui, et évidemment, les gens qui ne sont pas extérieurs à ce qui a été imaginé ne peuvent pas participer à la collaboration, et de fait, on s'aperçoit qu'encore aujourd'hui, le principal outil d'échange au sein des organisations reste le mail, hein, qui est le système le plus ouvert, hein, puisqu'il n'y a pas de liste fermée à qui je puisse envoyer des messages. Je dirais, deuxième exemple, bien connu dans les gens qui ont travaillé sur l'entreprise, hein, sur ces grands systèmes intégrés informatiques, les ERP, Enterprise Resource Planning, hein, qui donc intègre l'ensemble de la circulation des données dans une grande entreprise. Et bien, quand on regarde la façon dont les utilisateurs utilisent ces outils, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, ils réussissent à extraire des données, à les recalculer, remodifier, ils les réinjectent dans le système. Donc ils contournent, ils font une sorte de DDR, de dérivation dans des systèmes extrêmement contraignants. Donc, je crois que si on veut aller un peu au-delà, hein, de ces pistes, il faut choisir, c'est cette approche que je voudrais présenter maintenant, une approche dite interactionniste, hein, dans laquelle on estime qu'il y a un cadre qui organise l'action. Et notamment, j'utilise dans mes travaux cette notion de cadre d'usage, hein, qui décrit les activités sociales proposées par la technique, qui les positionne, ces activités, dans l'ensemble des pratiques sociales, dans les routines de la vie quotidienne ou de la vie en entreprise, qui précise les publics envisagés par une technologie, les lieux ou les situations où cette technique peut se déployer. Et finalement, qui donne un sens social à une technologie. Je dirais, ce cadre d'usage a, je crois, une double fonction. D'une part, une fonction cognitive et symbolique. C'est-à-dire qu'il donne une signification à une technologie. Ce qui est effectivement une question centrale. Hein, quand au début d'Internet, par exemple, hein, on se demandait à qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi ça sert. Hein. C'est une question qu'on se pose quand toute nouvelle technologie arrive. Et d'autre part, ce cadre d'usage permet d'organiser les interactions, hein, entre les acteurs entre eux et les interactions que les acteurs ont avec l'objet technique. Finalement, il permet aussi de se repérer dans le monde des objets, dans les relations des personnes avec les objets. Il permet finalement d'organiser les interactions. Alors, je crois qu'il ne faudrait pas imaginer que la définition de ce cadre d'usage, qui est clé dans toute la phase de conception d'une technologie, est une est une question qui ne concerne que l'usager. De toute évidence, elle concerne l'ingénieur. Dès qu'on commence à travailler sur une technologie, on a besoin d'avoir une certaine idée de l'usager. Alors parfois, c'est pas toujours la bonne solution, cette idée de l'usager, c'est soi-même. Alors effectivement, c'était l'idée de nos surfeurs de tout à l'heure. Finalement, ils savaient mieux que d'autres ce qu'on pouvait faire avec une planche de surf. Mais parfois, l'ingénieur isolé dans son laboratoire n'est pas forcément le représentant idéal des usagers. Mais cette question de cadre d'usage concerne également, évidemment, le constructeur. Si on passe à l'industrie automobile, vous savez bien, entre ce que fait le bureau d'études et ce qu'on réalisera à l'usine, il y a toute une série de négociations, car il y a les contraintes de la fabrication. Mais cette question de cadre d'usage concerne aussi les médias. Ce sont eux qui vont présenter le nouveau dispositif, qui vont faire circuler des représentations. Ça concerne aussi les prescripteurs. On parlait des services informatiques tout à l'heure, les installateurs et les usagers. Mais donc, c'est l'ensemble d'une chaîne d'acteurs. Et ceci va prendre la forme d'un discours, je parle quant à moi d'un imaginaire technique qui accompagne une technologie. Une technologie qui n'est pas capable de construire un discours ou qui construit un discours trop limité aura des problèmes. Vous pourrez prendre l'exemple du vieux Minitel, je dirais parmi les difficultés que France Télécom a eues avec le Minitel. Disons, après une période de succès, je crois que si on compare à ce qui se développait, à ce qui s'est développé un peu plus tard du côté des informaticiens et d'Internet, les opérateurs de télécom ont été incapables de produire un discours d'accompagnement de leur technologie. Alors, ce cadre d'usage, il peut changer. Si on prend l'ordinateur personnel, eh bien, jusqu'au milieu des années 90, son cadre d'usage était orienté vers les jeux et la bureautique. Et puis, avec l'arrivée d'Internet, effectivement, un nouveau cadre d'usage a été offert. Bien sûr, ce cadre d'usage ne définit que des usages standards autour desquels les usagers peuvent broder, ils peuvent personnaliser leurs usages, mobiliser l'objet, en fonction de tactiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc, si une technologie ne peut pas se développer sans une stabilité de son cadre d'usage, cette stabilité ne s'oppose pas à une flexibilité, à un cadre dans lequel on peut appliquer la règle, la transformer, la détourner d'une certaine façon. Mais on a toujours besoin d'un cadre qui organise l'action. On peut associer, il est nécessaire d'associer à ce cadre d'usage un cadre de fonctionnement technologique qui définit, je dirais, les grands choix technologiques qu'on retient. Est-ce qu'on fait un moteur à explosion ou un moteur électrique, par exemple? Alors, je voudrais illustrer cette approche par un exemple que je vais prendre dans l'industrie automobile, du premier tiers du XXe siècle, quand Ford diffuse sa Ford T. La Ford T était un outil plutôt construit pour la ville. Et dans le monde rural, on va s'approprier la voiture automobile à travers un cadre d'usage très différent, qui est finalement celui de la voiture machine agricole. D'une voiture qui va devenir une source d'énergie pour pomper l'eau ou couper le bois. Il y a tout un cadre alternatif qui se développe dans les années, au début des années 20. Mais évidemment, ce cadre d'usage alternatif va amener des modifications de la technologie, du cadre de fonctionnement technologique. Si au début les fermiers bricolent leur Ford T, mettent des accessoires adaptés, ils installent la voiture sur un cric, hein, ils attachent une courroie à la roue. Bon, évidemment, il y a notamment des problèmes de différentiel qui se posent. Hein, et donc, petit à petit, des industriels à la frontière de l'automobile et des machines agricoles vont modifier cet outil pour en produire un autre. Hein. Qui sera donc le tracteur. Et donc voilà, on voit comment, dans certains cas, des acteurs innovants peuvent changer le cadre d'usage d'une technologie, mais que évidemment, ce changement du cadre d'usage amène une transformation du cadre de fonctionnement technologique. Je vais terminer par un dernier point, qui est la question de la mise en réseau des acteurs. Dans la sociologie des techniques, la question des réseaux est centrale. Hein, elle considère qu'effectivement, il n'y a d'innovation qui réussit que si les innovateurs sont capables de se trouver des alliés, de nouer des alliances. Finalement, contrairement à ce qu'on croit parfois, il n'existe pas d'innovateur qui pourrait réussir contre tous. Hein? L'innovateur qui a raison contre tous les autres. Hein? Il ne peut avoir raison contre tous les autres que s'il réussit à tisser des alliances. Hein? Alors, avec la technologie, nous disent Michel Calon et Bruno Latour, mais aussi avec toute une série de partenaires. Je dirais que ça a été parfois une des explications des échecs de l'innovation. Quelqu'un d'Orange tout à l'heure, face à moi, il me dira si je me trompe. Hein, mais j'ai lu, c'est une thèse là, que je termine, quelque chose de tout à fait intéressant sur la façon dont Orange a développé en interne, il y a 2-3 ans, toute une série d'applications proposées par le portail, pour le portail de ses smartphones, des développants, Orange Maps, un réseau social interne, donc, disons des applications limitées à ses abonnés et enfermant en quelque sorte ses clients dans des applications développées en interne. Je dirais face à ce modèle qui serait un modèle où on considère que quand on est une entreprise de la taille d'Orange, qui a des laboratoires de R&D extrêmement puissants, eh bien on peut tout développer seul. Et puis vous avez le modèle qui serait plutôt celui des entreprises de l'Internet, on pense à Google ou à Apple, qui finalement réussissent à mobiliser les développeurs. Dans un monde ouvert, c'est le monde Android, ou dans un monde fermé, c'est le monde de l'iOS d'Apple. En leur fournissant des outils de développement, en aidant leur communauté, en les informant les premiers de l'innovation, la façon dont se structurent les communautés Android sont très très intéressantes à étudier. Il y a là un vrai partenariat qui réussit à se nouer entre une grande entreprise, en l'occurrence Google, et toute une communauté de développeurs. Alors, cette idée de partenariat de développement de l'innovation en réseau n'est pas si facile que ça à mettre en place. Il y a eu une thématique qui a eu beaucoup de succès ces dernières années, qui était la thématique des plateformes de co-innovation, qu'on a trouvé notamment chez les opérateurs de télécom, chez certains constructeurs de micro-ordinateurs comme Dell. L'idée était de dire, on crée en ligne une plateforme sur laquelle les usagers peuvent participer avec les ingénieurs au développement de l'innovation. Ils peuvent lancer leurs idées, en débattre avec les ingénieurs de la R&D, et petit à petit, on va arriver à l'innovation la plus efficace. Quand on regarde comment fonctionnent ces plateformes de co-innovation, j'ai un thésard qui a terminé il y a quelques mois, une thèse là-dessus, on s'aperçoit qu'en fait, on est retombé dans des schémas très très classiques, et que c'est plutôt, derrière la co-innovation, on a plutôt affaire à des plateformes de test, hein, dans lesquelles les services marketing mettent une maquette d'un produit et font réagir des usagers innovants. Mais il n'y a pas vraiment de co-innovation. Donc la construction de ces collaborations, de cette mise en réseau, est complexe. On peut penser aussi à des lieux, hein, comme la cantine, qui était un espace à la fois de coworking, mais avant tout un espace de rencontre entre le monde des hackers et les grandes entreprises, ou à ces moments où on essaye de faire collaborer tout ce monde à travers ce qu'on appelle dans ce monde les hackathons, qui sont des sortes de week-ends intensifs. Hein, hackathon, c'est un mot valise qui vient de hacker et de téléthon, hein, et donc pendant 48 heures, on demande à des développeurs d'essayer d'imaginer la maquette d'une application à partir de données que des grandes organisations acceptent d'ouvrir. Il y a eu par exemple dans cet espace un hackathon organisé avec la SNCF, notamment Transilien. Donc la SNCF a accepté d'ouvrir ces données de trafic pour permettre à des hackers d'imaginer de faire la maquette d'une application qui permettrait une circulation transmodale en fonction de l'état du trafic. Donc il y a toute une série d'expériences de cette collaboration en réseau qui se mettent en place, mais qui sont complexes à organiser. Voilà quelques premières réflexions introductives qui vous montrent en tout cas que l'organisation de l'innovation est infiniment plus complexe qu'on ne peut le penser. Je terminerai en disant que peut-être une des caractéristiques de l'innovation, c'est que les échecs qui sont au moins aussi importants que les réussites, et que en sociologie, en histoire, l'analyse des échecs nous a toujours été extrêmement utile. Et que, je dirais, les entreprises qui disparaissent parce qu'elles ont été incapables de développer une politique d'innovation sont fort nombreuses. Voilà. Donc, à partir de ça, on peut peut-être poser quelques questions.